La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Qu'est-ce que la foi ? La contemplation. Qu'est-ce que la foi ? La contemplation, c'est un raccourci. Qu'est-ce que la foi ? Ce n'est pas la contemplation, mais, petit 2, la contemplation est alimentée par la foi et la contemplation permet la source de l'action. L'action n'est qu'une surabondance de contemplation, c'est bien l'adage de Maritain. Alors dans cette prolongation, dans cette série d'émissions qui réfléchit sur la foi, je voudrais aborder cette fois-ci l'idée de base de Maritain, qui est de dire « la contemplation n'est pas réservée aux contemplatifs ». La contemplation sort du couvent, elle sort de la clôture, elle va dans la rue. La contemplation sur les sentiers, tel est l'adage de Maritain. Il en rajoute un, la contemplation pour les petits troupeaux. C'est dans un petit troupeau, il en formait un avec Raïssa, son épouse, et Vera, la sœur de Raïssa. Petit troupeau, petite embarcation frêle, mais qui se maintient parce qu'elle se conforte. Les trois solitudes que forment les trois entités, Jacques, Raïssa, Vera, ce sont trois solitudes, Maritain insiste bien, plus nous avancions, plus nous étions seuls, forment cependant une communauté retroussée à l'envers. La communauté se fait sur le mode de la communion des saints. C'est d'abord par le silence, c'est d'abord par ce dénominateur commun qu'est la foi, que se fait une communauté. C'est-à-dire, ce qui se met au centre et en premier, c'est la vie théologale. Les trois vertus théologales, foi, charité, espérance, correspondent, c'est souvent la patristique qui a fait correspondre ces trois vertus aux trois hypostases divines, Père, Fils et Esprit Saint. Et donc une communauté, ce n'est pas d'abord un partage par la parole, ce n'est pas d'abord un partage où on se met au centre, on raconte son expérience de vie, etc. Non, c'est d'abord un silence contemplatif, une même orientation de cœur, pourrait-on dire, qui permet à l'inhabitation trinitaire de se vivre, tout simplement. Et cette contemplation, elle n'est pas réservée de très loin, vous le voyez bien, aux cloîtrés, ou même aux religieux non cloîtrés. En effet, si on regarde un peu dans l'histoire de l'Église, le vœu des religieux est un vœu, mais ce n'est pas un sacrement. On va dire que le vœu est la prolongation parfaite, poussée dans sa perfection, des grâces du baptême. Ça veut donc dire que tout baptisé est un contemplatif, en tout cas est appelé à creuser cette vie contemplative en lui. Et c'est une magnifique réponse à l'appel du carême, à l'appel de la vie intérieure et à ce que Maritain désigne par le don de soi radical. Alors comment voir cette perfection finalement de la vie chrétienne, du baptisé, dans cette vie contemplative ? Je rends la parole à Maritain. À une telle contemplation, tous sont appelés de près ou de loin, parce qu'elle ne dépend pas de la nature ni du savoir de l'homme, mais de la grâce et du don divin. Comme tous sont appelés à la perfection, citation, vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est un précepte adressé à tous comme indiquant la fin à laquelle chacun doit tendre selon son pouvoir et sa condition. La grande nouveauté introduite par le christianisme est cet appel de tous, libres et esclaves, ignorants et cultivés, adolescents et vieillards, à une perfection qu'aucun effort de la nature ne peut atteindre, mais que la grâce donne et qui consiste en l'amour, et de laquelle, par conséquent, nul n'est exclu, sinon par ses refus. Alors, il faut faire attention à ce texte. Je vous ai dit, il s'agit de contemplation, la contemplation sur les sentiers. Pour tous, j'ai parlé un petit peu de ce petit troupeau que formaient Raïssa, Jacques et Vera. Mais ici, dans le texte, on a un appel à tout le monde. C'est que libre et esclave, ignorant et cultivé, adolescent, vieillard, tout le monde est appelé à une perfection, alors en tant que chrétien, bien sûr, qu'aucun effort de la nature ne peut atteindre, mais que la grâce donne et qui consiste en l'amour. Donc la grâce va donner, va parfaire une forme, une nature. Alors comment comprendre cette nature? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'homme est déjà appelé par nature à un dépassement de lui-même, à un don de lui-même, à des activités qui s'élèvent au-dessus de lui-même? Vous reconnaissez dans ces formules, ces expressions, une traduction ou une translation de la philosophie aristotélicienne. Pour Aristote, c'est pas la vie au quotidien, c'est pas savoir si je vais mettre de l'essence dans ma voiture, ce que je vais manger à midi et si j'aurai réservé mon camping pour l'été. C'est bien de vivre à un autre plan. C'est la vie intellective pour Aristote. Et c'est dans cette vie intellective qu'il y a un théorène, une théoria, c'est-à-dire une contemplation. Si le mot théoria, théorène, contemplation, contempler a changé de sens avec l'ère chrétienne, il n'empêche qu'il y a la possibilité de refuser cette vie. Alors, ce refus, cette possibilité de dire non à la condition humaine, purement et simplement, est étudiée à la fin de la philosophie morale. Pour rappel, il y a pour moi trois thèses, trois sommes, on va dire, de Maritain. En 32, les degrés du savoir. C'est la somme pour la philosophie spéculative. Au plan pratique, qui se divise en deux, comme vous le savez, il y a l'art et il y a la morale. En 53, traduction française, de l'intuition créatrice dans l'art et la poésie. Donc ça, c'est la somme pour l'art. Et c'est inégalé. Maritain, là, vraiment, a pensé les choses de manière absolument remarquable, en particulier en donnant un rôle fort à l'intuition. La philosophie morale est publiée en 1960 et vient donc constituer, si vous voulez, la troisième somme pour le troisième domaine, champ d'étude, qui est la vie pratique, la vie morale. À la fin de cet ouvrage, voilà comment Maritain réfléchit sur la tentation de refuser la condition humaine. Cette tentation de refuser la condition humaine risque davantage de s'insinuer en nous quand l'homme a, d'une manière ou d'une autre, mieux pris conscience des exigences naturelles, je dis bien naturelles, de l'esprit en lui, de cet esprit qui est son âme, et qui se révèle à lui-même dans les plus hautes puissances de celle-ci. Une telle tentation n'existe pas chez les hommes primitifs. On peut croire que dans l'histoire collective de l'humanité, c'est elle, pour une bonne part, qui, travaillant en nous à notre insu, fait que les progrès mêmes par lesquels la civilisation avance vont de pair avec les mirages qui les égarent ou des dégradations qui les corrompent. Refuser dans l'intime du cœur la condition humaine, c'est ou bien rêver de sortir de nos limites et vouloir jouir d'une pleine liberté où par ses propres pouvoirs s'épanouirait notre nature, ou bien jouer à l'esprit pur, ce que nous avons appelé autrefois le péché d'angélisme, ou bien maudire et tâcher de méconnaître tout ce qui fait obstacle à la vie de l'intellect et vivre en état de révolte intérieure contre le fait qu'on est homme, ou bien fuir par n'importe quelle ivresse, fût-ce dans la folie de la chair, cette situation d'une raison partout aux prises avec la matière, qui est un défi permanent aux demandes de l'esprit en nous. Il n'est guère surprenant que ceux qui se consacrent à la vie de l'intelligence, le poète en particulier et le philosophe, soient plus ou moins exposés à une telle tentation. Les anciens sages de la Grèce y ont cédé, quand ils disaient que ce qu'il y a de meilleur pour l'homme est de n'être pas né. Ce qui, dans la vie individuelle, donne le plus souvent lieu à cette tentation, sans la justifier pour autant, c'est que l'homme qui s'efforce, comme disait Aristote, de vivre selon l'intellect, est plus conscient que ceux qui vivent selon l'humain, de tout ce que nous remarquions plus haut concernant la misère de la condition humaine. Souvent même, l'homme dédié à la méditation oublie que cette matière qui tourmente l'esprit trouve en elle par l'essence la source de sa vie, et que les mots qu'elle cause la matière la matière les rend elle-même passagers, dans une certaine mesure étant principe radical de mutation. Mais surtout, si cet homme prête attention aux leçons de l'histoire et aux longs cris des pauvres et des abandonnés, il comprend que la souffrance nue, l'horreur, l'angoisse sans consolation. C'est cela, le vrai arrière-fond du monde pour nous. Si généreuse pourtant que soit la nature, et si admirables les succès remportés par les générations humaines pour rendre, par les progrès de la civilisation, de l'art et de la connaissance, les choses moins hostiles à l'homme et les structures de sa propre vie plus dignes de lui. Il se peut que pendant longtemps, nous perdions presque de vue cet arrière-fond du monde. D'un moment à l'autre, il paraît à nos yeux. L'homme qui a passé le seuil de la vie selon l'intellect comprend aussi tout ce qu'il y a d'offensant et d'humiliant pour cet esprit, en lequel consiste sa différence spécifique à elle-même et sa dignité, dans la contingence radicale liée à la matière et dans la dépendance à l'égard de la nature matérielle qui font l'infirmité métaphysique de notre existence. Aux yeux de la nature matérielle, un homme vaut-il plus que le bruit du ruisseau ? Pour poursuivre là son œuvre, l'esprit se débat sans cesse contre le fortuit et l'inutile. Son mouvement même ne dépend pas seulement des valeurs absolues où il a son objet propre. Il dépend aussi du hasard, des bonnes et des mauvaises rencontres. Il avance de génération en génération, en endurant une perpétuelle agonie, pour qu'à la fin, ce qu'il a produit ici-bas tombe, sous la loi du dépérissement et de la futilité, qui est celle de la matière. Et pour que ce qui est immortel de soi ne se trouve reçu par notre espèce qu'au prix d'équivoques et de méprises, qui se perpétue tout le long du temps. Il reste que tout cela doit être accepté, même quand ils ne répètent pas à leur façon et si chétivement que ce soit l'histoire de Faust, il n'est pas de plus triste et plus vaine détresse que celle des hommes qui, sous prétexte qu'ils veulent vivre selon l'intellect, se laissent entraîner par la tentation de refuser la condition humaine. Ils sont vaincus d'avance et leur défaite aggrave leur sujétion. Alors, qu'est-ce qu'accepter la condition humaine ? Ça a deux composantes. La première, c'est accepter l'incarnation, c'est-à-dire la limitation dans l'espace et le temps, c'est-à-dire le rapport à la matière. Notre corps, un jour, pourrira. Notre corps nous empêche d'être à la fois à Toulouse et à Paris. La matière est une limite de l'homme, une limite à quoi ? Au rêve prométhéen d'être comme des dieux. Prométhée a volé le feu à Zeus. C'est un rêve faustien, c'est le rêve de Faust qui veut tout savoir. Il a tout étudié, hein, ça commence comme ça, dans le Faust de Goethe, j'ai tout lu, je sais tout. Il a étudié la physique, la musique, la mathématique, toutes les langues, toutes les sciences, toutes les philosophies, y compris l'ésotérisme, et il est amer, désabusé. Dans le Faust de Gounod, il veut s'empoisonner, il en a assez de vivre, et il veut être maître de sa mort, d'où le poison. « Je serai aussi maître de sa mort », dit le texte de l'opéra de Gounod. C'est l'ouverture de l'opéra. Et du coup, il en appelle à Satan. Il dit « Eh bien, Satan !» Et Satan apparaît, c'est Méphisto, et qui lui propose le pacte que vous savez. « Je te donne ce que tu veux. » Alors, veux-tu le pouvoir ? Non, répond Faust. Veux-tu l'argent, l'or ? Non, répond Faust. Je veux quelque chose qui vaut tous les biens de la terre, le pouvoir, l'avoir, l'honneur. Ce bien, c'est la jeunesse. Faust demande la jeunesse. C'est quoi la jeunesse ? C'est une forme d'illusion d'immortalité. Toutes les forces sont en action, tous les potentiels sont là. Je suis né plusieurs et je meurs un seul, écrit Blaise Pascal. C'est une forme d'illusion de recommencer dans un éternel recommencement. Il n'y a pas de temps, il y aurait une sorte d'éternité cyclique. C'est un cycle, et cette jeunesse, elle va être orientée vers la chair. Ce que demande Faust à la jeunesse, c'est le plaisir immédiat, celui de la chair, et vous le connaissez, l'acte 2, c'est la séduction de Gretchen ou Marguerite. Maritain dit « Refuser la condition mortelle d'être enfermé dans la matière, c'est refuser. » Deuxième pilier, l'esprit. Parce que l'esprit descend dans la matière. C'est le sens de l'incarnation. Et donc, suivre l'esprit, c'est faire droit à ce mystère de la matière et le transcender, le dépasser et donner à la véritable condition humaine sa dimension. Alors, je vous propose de méditer sur cette façon de voir maritainienne qui repose sur une anthropologie, hein, finalement. À partir d'un choral, hein, de l'Orgelbüchlein, un autre, Christ lag in Todesbanden. Alors, c'est un choral qu'on peut jouer de deux manières. La traduction, Christ gisait dans les liens de la mort. On peut le comprendre comme il gît encore, même s'il s'agit d'un imparfait, d'un passé. Et c'est-à-dire, on peut entendre le mélisme de l'enveloppement dans le linceul, comme on peut l'entendre comme une résurrection. C'est terminé. Il gisait dans le passé et le prend dans un tempo plus allant avec un plein jeu. C'est l'interprétation que nous avons choisie. Le don de soi, qu'on peut traduire par la dépossession de soi, le creusement de soi, à l'imitation du Père, qui se creuse dans sa miséricorde, n'est pas une tristesse. Ce choral, Christ disait dans les liens de la mort, c'est l'éclipse, hein, on a dépassé la mort pour la résurrection, et vous entendez ce thème du linceul, hein, qui s'enroule, on descend. C'est un thème enrobant, enroulant, qui est ici le thème même de la joie de la victoire de la vie sur la mort, c'est-à-dire de la résurrection. Donc le carême n'est pas un temps triste, c'est un temps de creusement. Et Maritain développe cette idée dans plusieurs ouvrages, et notamment dans Le paysan de la Garonne. Il va réfléchir sur cette soif de contemplation à partir des grands saints et de la petite Thérèse. Le fait est qu'en ce moment, beaucoup d'âmes meurent de soif. Je l'ai déjà noté et j'y reviens encore. Le titanisme de l'effort humain est la grande idole de notre temps. Par titanisme, on peut entendre ce que j'ai dit juste avant, la plage musicale, le prométhéisme, Prométhée, le faustisme, Faust. Il est clair qu'une invisible constellation d'âmes a donné à la vie contemplative, dans le monde lui-même, au sein même du monde, voilà en définitive notre ultime raison d'espérer. À la différence des actifs, qui, s'ils avancent dans les voies de Dieu comme il leur est demandé, vivent de la contemplation masquée, c'est d'une contemplation ouverte que vivent les âmes dont je parle. Leur voix est très humble, elle ne demande rien que la charité et l'humilité, et un recueillement en Dieu sans grâce apparente. Cette voix est celle des pauvres gens. C'est la petite voix que Sainte Thérèse de Lisieux a été chargée de nous enseigner, espèce de raccourci, singulièrement abrupte, à vrai dire, où toutes les grandes choses décrites par Saint Jean de la Croix se trouvent divinement simplifiées et réduites au pur essentiel, mais sans rien perdre de leurs exigences. L'âme y est dépouillée, et son horizon est le même, et bien dépouillée, si aride parfois qu'elle semble fuir dans les distractions et dans le vide. C'est une voie qui demande un grand courage. L'abandon à celui qu'on aime se charge de tout. Il fera passer par toutes les étapes par où Jésus voudra qu'on passe, à lui de le savoir, et conduira là où Jésus voudra, dans la lumière ou dans la nuit. Dans son cœur seul, ces êtres-là veulent avoir leur abri. Et du même coup, ils veulent aussi que le prochain ait un abri dans leur cœur. Deux choses à dire sur cette contemplation. Il s'agit de suivre le Christ et de lui laisser toute la place. Et un des critères, c'est l'aridité, le désert, la sécheresse. Souvenez-vous, Saint Jean de la Croix parle du nada rak, rien. Les contemplations où l'on recherche une émotion, une sensiblerie, j'allais dire, une sensation, c'est une recherche de soi. Si elle est donnée, elle est donnée gratuitement, par surcroît. Mais on ne s'y arrête pas. Pourquoi ? Parce qu'on veut plus. On veut toujours davantage. On veut le Christ lui-même. Et la deuxième chose, le deuxième élément, c'est qu'on ne veut pas le Christ pour soi, mais pour lui-même. Et donc, comme le Christ est toujours tourné vers les autres, cette miséricorde, c'est donc pour le prochain. La contemplation n'est pas un solipsisme, la contemplation n'est pas un égoïsme. Souvent, on entend, moi je travaille et eux, ils contemplent, c'est les Jérémiades de Marthe et de Marie. Ben oui, Marthe est bien à sa place, ce qu'elle fait, elle le fait bien, mais elle n'a pas à se plaindre, parce que c'est une incompréhension totale de la fécondité contemplative. Donc ici, une définition, une sorte de description très rapide sur 5-6 lignes dans le Pays à la Garonne, un recueil, ouvrage écrit en 66 à Toulouse, qui a suscité une grande polémique. C'est un ouvrage où il y a des pages absolument extraordinaires, comme celle que je viens de vous lire, où il y a un concentré qui donne les deux piliers, on va dire, de la contemplation. Elle est pour le Christ et elle est pour le prochain. Alors, comment la concevoir ? Ce mot fait peur. Maritain en est conscient et il va montrer que la contemplation est chose ailée. La sublimité de ceux qui enseignent la contemplation a de quoi faire peur. Qui sont-ils ? Des grands. Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, tous les pères du désert, les chartreux. Il y a de quoi faire peur. On se dit, on n'est pas capable. Eux ont mené la cèse, l'obéissance, la chasteté, ils se sont privés. Et Maritain va nuancer. Est-ce que pour avancer comme il faut vers Dieu, il m'est prescrit à moi, qui suis agent d'affaires, ouvrier d'usine ou médecin, accablé de clientèle ou père de famille, pliant sous le fardeau, de parler avec Dieu comme Sainte Gertrude ou Sainte Catherine de Sienne, et d'aspirer à l'union transformante et au mariage spirituel comme Thérèse et Saint Jean de la Croix ? Non, il ne s'agit pas de ça. La contemplation est chose ailée et surnaturelle, libre de la liberté de l'Esprit de Dieu, plus brûlante que le soleil d'Afrique et plus fraîche que l'eau du torrent, plus légère qu'un duvet d'oiseau, insaisissable, échappant à toute mesure humaine et déconcertant toute notion humaine, heureuse de déposer les puissants et d'exalter les petits, capable de tous les déguisements, de toutes les audaces et de toutes les timidités, chaste, hardie, lumineuse et nocturne, plus douce que le miel et plus aride que le roc, crucifiante et béatifiante, crucifiante surtout, et parfois d'autant plus haute qu'elle est plus inapparente. Donc vous avez reconnu une référence au Magnificat dans ses renversements des contraires, et qui fait que la contemplation, elle a pour modèle Marie, contemplative par excellence, discrète, Joseph, le grand silencieux. Il ne prononce pas un mot des quatre évangiles. Il n'y a pas un mot de Joseph. C'est vraiment l'homme de la présence. Et la conclusion de Maritain, d'autant plus haute qu'elle est plus inapparente. La contemplation est chose ailée, cela veut dire qu'elle est légère comme un oiseau, à peine visible. Elle n'est pas de l'ordre de la matière et donc du sensible. Et sa force est presque un paradoxe, ou du moins une proportion. Plus elle est sensible, moins elle a des chances d'être profonde. Alors comment la vivre ? La certitude, c'est le désert. Le désert est la certitude. Maritain propose tout simplement, dans sa règle de vie, de prendre un réveil, de mettre un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 3 heures pour ceux qui peuvent, et de s'arrêter quand le réveil sonne. C'est tout. Ni avant, ni après. Un peu moins, un peu plus, ça appartient au diable, dit-on, de manière un peu humoristique, mais profondément réelle.